董端。
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris-Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Le retour de Christophe. Bonjour Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà. Et toujours Claude à la technique, comme d'habitude. Et Gilles au micro avec vous, bien sûr, pour ce soir. Une émission 100% chômage, bien sûr, comme souvent dans cette émission. Alors ce soir, nous parlerons donc de Pôle emploi autorisé à fouiller dans les comptes bancaires des chômeurs pour lutter contre la fraude, des emplois vacants qui sont apparemment de la faute des chômeurs, de l'intérim et du low cost et des emplois d'avenir, entre autres. À tout de suite. Voilà, cette émission reprend donc pour une heure jusqu'à 21h30. Merci de nous écouter, restez sur cette onde. Donc Ludo, si tu peux nous dire deux mots sur un petit peu ce que fait Pôle emploi pour qui est autorisé apparemment à fouiller dans les comptes bancaires pour lutter contre la fraude apparemment. Et donc c'est dans le cadre d'un dispositif, apparemment une loi, un décret qui vient d'être, fait. Hein.
Eh bien, écoute, ce que fait Pôle emploi, comme tu l'as dit, son dispositif pour fouiller les comptes bancaires, on n'en sait rien.
Puisque oui, oui, oui.
Par définition, on ne sait pas ce qu'il traficote. Par contre, on sait qu'il y a un arrêté du 17 octobre donc dernier qui a été publié au Journal officiel et qui ajoute Pôle emploi, effectivement, à la liste des organismes autorisés à interroger les informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés, le FICOBA, donc qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Et leurs titulaires.
80 millions à peu près, c'est ça
Alors, grosso modo, oui, c'est ça, c'est exactement. 80 millions de particuliers, je précise, ouais. Français ou non, d'ailleurs, qui détiennent au moins un compte, donc courant d'épargne, etc. Donc, effectivement, la FICOBA a pour objet de fournir à certaines personnes et organismes habilités, donc évidemment, dans le cadre de l'exercice de leur mission, des informations sur les comptes bancaires ouverts en France. Donc, c'est selon la CNIL qu'il recense 80 millions de particuliers, français ou non. Et donc en France, donc toujours de même source, la Direction Générale des Finances Publiques, donc la fameuse DGFiP, détient et gère le fichier et elle traite environ 100 millions de déclarations de comptes. Les droits d'accès à ce fichier, donc qui est effectivement particulièrement sensible, sont évidemment strictement encadrés et donc son fonctionnement est notamment régi par l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires. Bon, bref, la question, c'est de savoir qui consulte quoi, comment et pourquoi, et si c'est automatisé. Oui. Parce que c'est une grande différence de le consulter manuellement, d'être autorisé dans le cadre de ses recherches, ou par contre à fliquer systématiquement tout dépassement frauduleux.
Il y avait
bon,
déjà...
alors, en même temps, on peut supposer que 100 millions de comptes, c'est compliqué à gérer, bien sûr, évidemment. Alors, qui peut consulter le fichier? Donc, en premier lieu, évidemment, c'est les agents du fisc, bien sûr, des douanes, de la répression des fraudes, et donc de TRACFIN, la cellule de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, afin de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment, comme je viens de le dire. Donc, c'est aussi le cas de la police judiciaire, dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin. Et la Banque de France y a également accès pour gérer les interdictions de chéquier. Les établissements de crédit, certains établissements de crédit peuvent aussi interroger dans le cadre de la lutte contre la double étention de produits d'épargne réglementés.
Mais pour pouvoir justement consulter ce genre de fichier, il faut peut-être présenter un courrier, faut qu'il y ait une procédure quand même pour
bien entendu, oui. Mais c'est une procédure administrative. Oui. Je veux dire, c'est pas un particulier.
Et là, il n'y a pas une attaque aux libertés, le fait.
Alors le problème, oui. Alors j'y viens. C'est-à-dire que effectivement, on se souvient du décret de contrôle des revenus des RMistes. ils sont devenus RSAST depuis, ouais. Et donc qui autorisait la caisse d'allocation familiale ou les différentes caisses de retraite d'aller consulter en fait hein, les comptes bancaires des RMistes. C'est-à-dire effectivement quand vous... bon, puisque certaines dispositions du RMiste permettait d'éventuellement de taper dans le patrimoine des RMistes, comme c'est le cas notamment en Allemagne. Donc effectivement, l'idée étant que ce que vous avez gagné par ailleurs, donc votre épargne, doit vous permettre de subsister malgré le fait que vous ayez
le droit, comme
tout le monde, hein,
ouais,
et
sûr,
comme
oui.
tout un chacun. Voilà. Donc, et qu'on puisse effectivement un peu taper ce que vous possédez. Alors, évidemment, ce dispositif est comme aujourd'hui, hein, parce que là, on était passé des RMistes. Alors, les RMistes, c'est les plus pauvres des pauvres. Voilà, donc on pouvait comprendre, hein, objectivement, qu'on s'attaque aux plus pauvres des pauvres, c'est-à-dire qui fraudaient le RMI. C'était tout à fait compréhensible ouais. de la part de nos responsables politiques. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy. Bien sûr, c'est de l'humour.
Le RMI, c'est un fraudeur de naissance. En
voilà,
tout
le RMI, c'est un fraudeur de naissance, bien entendu. Bien mais là, donc, là, on va, on monte un peu le cran et donc, ouais. donc, on s'attaque aux chômeurs, ce qui est tout à fait compréhensible aussi.
Oui. Hein,
soyons clairs. Je veux dire, des entreprises qui fraudent à la TVA, donc qui représentent la alors première
que,
fraude en France.
Alors que les riches, il ne faut qu'on comprendre. Ils entreprennent, ils apportent du boulot à la France et ils sont...
éventuellement. Bon, ceci dit, avec la lutte contre la fraude fiscale en ce moment, je pense qu'ils sont mis à contribution aussi. Mais voilà, quand même... alors, non, là, non, mais sérieusement. Hein. Donc effectivement, ce nouvel organisme Pôle emploi, donc c'est tout récent. Ça vient d'arriver. Et donc, effectivement, ça lui ouvre en effet le droit de consulter Ficoba, et donc afin d'obtenir les informations nécessaires, soi-disant, à l'exercice de leur mission. Et dans la mesure où il le juge nécessaire, alors c'est étrangement flou, l'article L152 du livre des procédures fiscales autorise notamment Pôle emploi à exercer ce droit pour apprécier les conditions d'ouverture et de maintien de droit pour un demandeur d'emploi, et pour calculer les indemnités auxquelles il peut prétendre encore ou pour obtenir le recouvrement des prestations du bon versé. Alors, non, la vraie question, c'est celle-là, en fait. Pourquoi faire ? S'il s'agit de obtenir le recouvrement des prestations du bon versé, on peut se dire qu'il a toute possibilité de passer par une procédure judiciaire, et notamment par des saisies sur compte. Alors, évidemment, les procédures judiciaires sont un petit peu aveugles, c'est-à-dire que même quand vos comptes sont vides, voilà, on vous tape ce que vous avez. Donc, du coup, on peut se demander déjà pourquoi obtenir effectivement le recouvrement des prestations indûment versées. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement aller regarder si le compte est garni et si on peut
rembourser.
Alors, dans le cas de la fraude, éventuellement, calculer les indemnités auxquelles il peut prétendre. Alors, moi, je m'interroge parce que les indemnités, c'est par rapport à ce qu'on a cotisé, par rapport à sa durée de chômage, ça ne dépend pas du niveau de son compte en banque. Alors par contre, éventuellement, on peut se dire que le but est, par exemple, de voir si un cadre, je prends cet exemple à bon escient, aurait touché un chèque sous le manteau, sans oui. faire une rupture conventionnelle. Et donc,
on n'a pas les accords transactionnels.
Exactement. Mais bon, la rupture conventionnelle, au départ, avait été conçue hein, pour limiter ce type de pratique. Mais apparemment, bon, je veux dire... Pôle emploi dute de son efficacité. Donc, calculer les indemnités auxquelles il peut prétendre, moi, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, à part allonger le délai de carence prévu à cet effet, suite à un dédommagement... Enfin, une indemnité de licenciement qui ne serait pas déclarée.
Juste un truc là, parce que j'aimerais comprendre, parce que quand tu t'inscris au chômage, normalement, les indemnités dont tu as le droit, c'est par rapport à ce que tu as travaillé.
Exactement.
Donc tu fournis les fiches de salaire.
Absolument.
Il ne voit pas pourquoi il regarde dans le compte bancaire.
Alors, moi, je pense qu'il regarde tout simplement, parce que quand on dit pour apprécier les conditions d'ouverture et de maintien de droit, c'est tout simplement pour aller effectivement voir si par ailleurs tu n'as pas une autre source de revenus, c'est-à-dire que tu ne travailles pas au noir,
d'accord.
En résumé.
Oui.
Ce qui, enfin, on le verra plus tard, mais est quand même un cas pour des chômeurs, donc en l'occurrence de moyenne et de longue durée, qui peut être éventuellement une pratique qui se comprend aisément. Que ses allocations ne lui permettent pas de vivre. Donc, je suis effectivement d'accord avec toi, c'est une atteinte, enfin, non seulement aux libertés, mais surtout aux droits des chômeurs, ma foi, qui ont travaillé, qui ont cotisé et qui l'ont fait pour qu'en cas de pépin, obtenir un droit qui va leur, même pas leur garantir le maintien de leur niveau de vie, mais leur assurer pendant quelques temps une compensation. Voilà. Donc il y a quand même il y a un contrôle social important,
oui.
Hein, de plus en plus sur les chômeurs. Je rappelle quand même que la fraude, en l'occurrence aux ACIDIC, elle représentait il y a quelques années 2% des oui. montants versés. Et alors on peut estimer que après tout ce chiffre était sous-estimé, puisque par définition c'est de la fraude et que la fraude il faut la détecter. Alors en la doublant, ça fait 4% des montants et ça représente en fait une somme tout à fait ridicule.
Tout à fait.
Voilà, par rapport au montant des sommes engagées, quoi.
Christophe.
Oui, il y a déjà trois points que je voudrais relever.
Mais vite alors.
Oui, d'abord, c'est l'aspect déontologique et moral. C'est-à-dire que là, clairement, le contrat social est rompu parce que je rappelle que les indemnités de chômage, au départ, c'est quand même une assurance.
Absolument.
C'est-à-dire que vous travaillez. Vous cotisez pour avoir droit à cette assurance. Et ce prétexte que vous avez, par exemple, travaillé 20 ans ou 30 ans de votre vie, vous avez droit à ça.
Et vous n'avez droit qu'à 2 ans maximum, hein, voilà. 6 ans quand même.
On vous dit, bah non, comme vous avez acquis entre-temps du patrimoine, et comme vous avez tel bien, on vous sanctionne. Donc c'est la double peine. Vous n'avez pas le droit à un emploi qui vous permette de conserver votre niveau de vie. Mais en plus, comme vous avez quand même, à un moment donné dans votre vie, cotisé et donc a pu acquérir du bien, du patrimoine, eh ben, ce patrimoine va vous permettre de vous mettre à flot à un moment donné, même si c'est pas dans votre intérêt. Enfin, là, il y a quelque chose qui est de la double sanction de fait, qui est pas acceptable. Surtout que, alors, on va nous dire, mais c'est pour la lutte contre la fraude. Sauf que, derrière, ça appelle à un débat de société. À savoir, bon, voilà, moi, je suis une personne qui travaille dans ma vie avec tel niveau de qualification, tel niveau de rémunération, comme l'ensemble des citoyens français. Je cotise, je m'achète des biens, un appartement, une résidence secondaire, etc. Et d'un seul coup, c'est ça qui va me permettre de conserver mon niveau de vie au moment de ma retraite, hein, entre autres, hein, parce que ça fait partie des mécanismes de maintien du niveau de vie et de l'enrichissement. Et parallèlement à ça, on me dit, ben non, étant donné que maintenant vous avez une mauvaise passe, vous devez payer, vous êtes doublement sanctionné. Enfin, et ceci sans le moindre débat démocratique. Parce qu'un décret, c'est pas un débat.
C'est un arrêté.
C'est un arrêté. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc,
exactement.
Moi, j'aimerais bien que les associations de chômeurs ou même les syndicats prennent des avocats spécialisés et contestent du fait de la droit de librement des biens au lieu en relation avec la Constitution européenne, la notion même de liberté des mouvements des capitaux, des biens et des personnes. On dit, bah non, ça c'est ma liberté, c'est mes biens, donc ça vous n'avez pas le droit de le saisir. Et j'aimerais bien que ça soit cassé au Conseil d'État et que ça soit cassé devant la Commission européenne. Parce que c'est purement et simplement un bras d'honneur.
C'est un côté discrétionnaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans quelque chose d'administratif, en l'occurrence, c'est un droit, mais effectivement qui est compris par une administration, donc, et puis que l'administration va d'elle-même aller chercher sur ce qu'il y a sur vos comptes, bon, effectivement, alors on pourra toujours dire que dans le cas des impôts, finalement, ça peut être ça, mais je suis même pas sûr que dans le cas de quand on fait sa déclaration d'impôt sur le revenu, il y a des gens qui il faut vraiment qu'il y ait un doute sérieux pour vous voyez ce que je veux dire.
Et alors le deuxième point que je voulais souligner par rapport à ça, parce qu'on oublie les mécanismes de l'administration. Il faut savoir qu'en France, tous les ans, l'administration fiscale systématiquement contrôle tout patrimoine supérieur à 3 millions d'euros qui doit être certifié par un commissaire aux comptes.
Bien sûr. Oui.
Tous les ans, ça fait partie des pratiques habituelles de l'administration fiscale. Or, la crise de 2008 a démontré une chose au niveau des banques. C'est ce qu'on appelle le shadow banking, à savoir qu'un certain nombre de comptes offshore créés par elles-mêmes les banques françaises et les banques, l'ensemble de l'activité bancaire, fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas où va l'argent de la haute finance. Donc on nous dit, ces gens qui sont en difficulté sont des fraudeurs en puissance, mais l'État lui-même se retrouve impuissant par ce qui crée la fraude essentielle, à savoir le shadow banking dans le monde, à savoir le monde des affaires et de l'entreprise.
En résumé, tu dis qu'il y a sûrement des montants plus importants à récupérer ailleurs que
absolument.
Sur le dos des
tout à fait, oui. Non, mais il faut rappeler quand même que d'abord la retraite, comme le fait de toucher ses indemnités chômage, c'est un droit, c'est un dû. Et qu'en fait, dans les charges salariales comme patronales, par exemple, charges salariales, c'est 6,8% du salaire qui sont pour le chômage.
Oui.
Donc effectivement, si on arrête de payer les chômeurs, eh ben, qu'on nous donne l'argent qu'on aura...
Après, on est d'accord, c'est aussi un système de solidarité.
Tout à fait,
c'est
voilà.
C'est-à-dire que c'est un pot commun et que les actifs retribuent. Mais effectivement, en tant qu'actif, on a contribué au pot commun pendant...
Alors, qu'il y ait des moyens de contrôle dans le cadre de cette solidarité, pourquoi pas ? Mais qu'on en rajoute encore, tout le temps, à chaque fois, pour chercher la petite bébête aux chômeurs qui
vont gratter.
Pour gratter 2 francs 6 sous. Parce qu'ils sont en fait, il y a plus de pauvres que de riches, mais les riches sont 10 fois plus riches qu'ils devraient l'être en fait, hein, ou 100 fois.
Non, mais
ou,
même, c'est surtout fois. qu'en termes de fraude, c'est quand même pas, c'est pas la fraude la plus importante
en
France.
Exactement. Donc,
c'est beaucoup moins que la fraude à la TVA, beaucoup moins que la fraude à l'impôt sur le revenu, la fraude sociale, comme on l'appelle, je suis désolé d'avoir à le dire, est marginale. Par rapport au reste de la fraude.
Absolument, sachant qu'il faut quand même rappeler que la direction des services fiscaux de Belgique a mis en place un logiciel qui permet de lutter efficacement en recoupant les fichiers en ce qui concerne l'impôt du monde des sociétés. Du coup, ils ont un taux de fraude fiscale qui est à minima. Il y a eu un reportage il y a quelques années de cela sur cette situation. On a demandé au service de Bercy, à l'inspection des finances, mais pourquoi on n'a jamais mis en place un tel fichier qui permettrait de récupérer des milliards en France ? Il y a eu refus de commentaires.
Très bien, on s'écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci. Et oui, c'était une chanson très politique du groupe Trust, un groupe fétiche, notre groupe fétiche à nous aussi. Voilà, donc on reprend cette émission, c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission sur les chômeurs et précaires. Le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler pour intervenir dans cette émission, le 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. On reprend cette émission de suite. Alors, on va parler un peu des emplois vacants parce qu'apparemment, il y a des entreprises qui cherchent du personnel pour travailler et puis apparemment, il y a des gens chômeurs qui ont des compétences et qui ne trouvent pas d'emploi. Et ces gens-là ne se rencontrent pas. Alors, pourquoi il y a tant d'emplois vacants, Christophe ?
Alors, c'est un débat récurrent au niveau du monde politique. C'est emplois vacants, c'est toujours la faute des chômeurs, hein, puisqu'on a une ritournelle régulière sur ça, à savoir que tous les ans, on nous sort, je cite M. Sarkozy, il y a 500 000 offres d'emploi qui sont pas satisfaites pour 1,9 million de chômeurs. Oh, drame dans les chaumières, les chômeurs ne veulent pas travailler. Et puis, lors de la deuxième conférence sociale, le 20 et 21 juin dernier, donc François Hollande, président de la République, soulignait, nous avons à regarder une réalité, elle n'est pas nouvelle, puisqu'il y a près de 200 000 à 300 000 recrutements qui sont entamés, puis abandonnés parce qu'il n'y a pas de candidats suffisamment qualifiés par rapport aux emplois qui sont proposés. Donc la logique voudrait dire, les chômeurs ne veulent pas travailler. Sauf que voilà, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu récemment un rapport lié à ça sur le comité d'orientation et de l'emploi qui effectivement s'est interrogé sur la notion même d'emploi vacant. Et là, il y a tout un champ de recherche à faire qui intéresse aussi bien le développement du territoire que le développement durable et tout ce qui concerne la machine administrative dans le cadre des politiques de l'emploi. Quels que soient les échelons d'intervention, que ça soit l'État, les collectivités territoriales. Parce que, effectivement, le premier problème, c'est qu'est-ce qu'on définit dans le terme d'emploi vacant ? Parce que très souvent, on parle d'offres non pourvues, de difficultés de recrutement qui sont liées à des métiers en tension. Sauf que ce rapport du comité de l'orientation de l'emploi dit, fais un premier constat. Ce terme, il est en général utilisé de manière indifférenciée. C'est-à-dire qu'on met sous ce vocable aussi bien un manque de main-d'œuvre extrêmement spécialisée qu'on n'arrive pas à recruter, que des offres qui n'ont pas trouvé preneur du fait de, par exemple, un salaire extrêmement bas. Donc déjà, c'est-à-dire que ce terme, il recouvre des réalités très différentes. Et il n'y a pas d'études là-dessus. Alors ça pose un problème, parce que vous imaginez, vous êtes un responsable politique sur un territoire donné. À partir du moment où, sous ce terme de vocable, vous n'avez pas d'outils d'analyse fine, comment vous les pouvez impulser dans le cadre des crédits d'État ou des crédits des pouvoirs publics sur cette notion, hein, sachant qu'un poste rémunéré nouvellement créé, inoccupé, est sur le point de devenir vacant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une période à décès et puis... l'employeur entreprend activement de chercher en dehors de l'entreprise un candidat le poste vacant serait pourvu d'ici quelques mois, etc. Également, le comité d'orientation et de l'emploi rappelle le fait que derrière la théorie du déplacement de la cour de Beveridge, je sais même pas ce que c'est un truc théorique, hein, excusez-moi, j'avoue mon ignorance, mais il rappelle un élément qui est une variable, c'est que toute économie saine, car un fonctionnement normal au niveau de l'offre et de la demande, a des emplois vacants en fonction de l'arrivée, plus ou moins prévue, de tels niveaux de qualification sur le marché du travail. Oui,
et qui trouve preneur en
création
ou tel type de création d'emploi.
Et qui trouve preneur en général.
Qui peuvent trouver preneur. Ce qui est par exemple logique du fait des évolutions technologiques.
C'est-à-dire qu'un emploi vacant ne l'est qu'à un moment donné, en réalité.
Exactement.
Contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, c'est pas forcément un emploi vacant sur la durée, sur l'année.
Je vais donner un exemple très simple qui peut paraître logique, mais qu'on oublie, c'est que. Quand il y a eu le développement d'Internet, il y a eu des centaines de milliers d'emplois vacants. Bah oui, il y avait des nouveaux métiers, des nouveaux cœurs de métiers qui apparaissaient.
Les fameuses start-up, entre autres.
Voilà. Donc au niveau du numérique, il y a des dizaines de métiers liés au monde des technologies qui sont apparus. Donc à un moment donné, il y a eu des milliers d'emplois qui étaient vacants parce que la société et le monde du travail s'attelaient à former les gens ou à faire venir le personnel qualifié par rapport à ça.
Il faut le temps, en fait, que la formation s'adapte aussi aux nouveaux emplois demandés. Mais de toute façon, sur cette notion, enfin, il me semble que d'un point de vue statistique, je suis pas un spécialiste ici pour en parler, mais c'est très très contestable, puisqu'il me semble qu'une des études sur lesquelles se basent donc les hommes politiques, hein, est liée aux offres non pourvues à Pôle emploi. Sauf que c'est des offres qui sont non pourvues, mais qui sont cumulées sur un an. Donc sur un an, on a n'importe quoi, donc 300 000, on va dire, offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues. Or, et donc qui sont à un moment donné ont été retirées du marché. Sauf que ça se passe en fait sur un an. C'est-à-dire que les chômeurs, il y a un flux d'entrée et de sortie de chômeurs. C'est-à-dire que effectivement, alors il y a des chômeurs qui sortent, mais il faudrait calculer sur la durée moyenne du nombre de personnes qui soient au chômage.
Et là, je te reprends parce que effectivement, le comité d'orientation et de l'emploi rappelle que du fait de cette dynamique d'entrée et de sortie par rapport à des nouveaux métiers, des besoins qui sont identifiés, c'est normal qu'il y ait des emplois vacants. Et il explique que dans cette notion d'emploi vacant, on a 300 000 échecs de recrutement par an, c'est-à-dire des fins de période d'essai qui n'ont pas abouti, etc., etc. Et en fait, la réalité, c'est que ça représente moins de 2% du recrutement, ce qui est en proportion aux 21 millions de recrutements annuels dans le secteur privé hors intérim. Donc derrière l'explication globalisante de « c'est la faute aux chômeurs », il s'avère qu'on est devant un paramètre qui est faux.
Oui, c'est-à-dire qu'on fait toute une histoire, on est à 2 millions, mais on oublie de dire que, d'abord, quels sont ces emplois qui sont vacants ? Parce qu'on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'emplois qui sont sous-payés puisqu'il reste vacant, ou c'est un emploi où il n'y a pas assez de qualifications. Donc il y a une espèce de vide, parce que si c'est en vacant, il y a une bonne raison. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des emplois qui sont vacants, mais qui ne le sont pas éternellement aussi. Hein.
Absolument.
C'est-à-dire que effectivement, il y a des emplois qui peuvent trouver preneur et puis être de nouveau vacants.
Oui,
il y a une forte rotation.
Donc, oui, avec la multiplication des CDD et puis des voilà, bien sûr.
Absolument. Ouais. On peut donner un exemple très concret. Vous imaginez une région proche de l'Atlantique décide d'investir massivement pour tout ce qui est du domaine de l'énergie renouvelable et pour tout ce qui est éolienne mais en haute mer, par exemple. Mmh. Un marché d'une nouvelle technologie de fait.
Tout à fait. Mmh.
Bon, qu'est-ce qui va se passer statiquement ? Il va avoir des emplois vacants parce qu'il faudra former les agents, les ouvriers, les techniciens pour ce type de main-d'œuvre qualifiée.
Tout à fait. Oui, non, c'est un problème, d'autant plus qu'il y a quand même, on peut reparler par exemple de l'intérim, on va en parler tout de suite avec Ludo. Et effectivement, peut-être que les emplois sont aussi vacants parce qu'il y a aussi une concurrence, peut-être un peu déloyale, mais je sais pas, faut en discuter, sur le fait, par exemple, en intérim, il y a beaucoup de pays, les Bulgares, les Roumains, etc., les pays de l'Est, qui effectivement, dans le cadre de l'intérim en tout cas, font une concurrence déloyale à l'intérim français, en fait, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne expression.
Qui viendrait du fait de l'employeur, en fait.
Qui ne
trouve pas de la main d'œuvre.
Qui viendrait du fait de l'employeur.
Parce qu'elle n'est pas assez sous-payée.
Alors, oui, Ludo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, oui.
Donc, non, mais c'est important parce que l'intérim, au moment de la crise, en fait, l'intérim a été le premier, donc, secteur d'emploi, voilà, si on peut dire ça comme ça, qui a chuté, en fait, hein, puisque effectivement, c'est les intérimaires qui étaient la variable d'ajustement, du marché de l'emploi et de la crise. Et donc, par, tout simplement, un non-renouvellement de CDD. Et donc, je crois savoir que les économistes sont restés penchés sur cet indicateur pendant très longtemps pour savoir si oui ou non l'économie allait enfin redémarrer. Et donc, à un moment, il y a eu un frémissement d'espoir, un peu moins, voilà, une espèce de stabilisation, moins de fin de CDD, donc voilà. Et donc là, on parle quand même d'une petite reprise qui, voilà. Sauf que, au niveau des effectifs des intérimaires, ça suit pas du tout. Voilà, si on en croit les échos eux-mêmes, puisque en fait dans tous les secteurs, la perte d'emploi liée donc aux intérimaires, donc par exemple le non-renouvellement hein, de ces intérimaires, c'est accru entre septembre 2012 et septembre 2013 de 6,8%. Donc ça représente 35 000 emplois détruits. C'est important. Et je veux dire, au milieu d'année, on était parti sur une destruction de 55 000 emplois en un an. Vous voyez, donc effectivement, la situation reste très préoccupante, comme le dit François Roux, qui est délégué général de Prisme Emploi. D'autant que tous les secteurs en fait sont touchés, et notamment les secteurs dans le service et les commerces, qui représente quand même un premier poste d'emploi en France. Donc on est à moins 8%. Et donc les services et les commerces sont encore plus touchés que l'industrie, et plus que les transports ou le BTP. Et toutes les régions sont concernées, même si certaines régions comme l'Alsace et le sud de la France le sont encore bien plus que les autres. Alors, autre phénomène inquiétant, c'est qu'en fait les cadres et les professions intermédiaires sont davantage concernés que les employés et les ouvriers. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, quand on parle d'économie qui repart, la première chose qui repart, c'est toujours l'emploi des cadres. Ils sont moins nombreux, voilà. Et puis, on a besoin de leur qualification. Bah là, semble-t-il, c'est pas le cas dans l'intérim, du moins. Voilà. Et donc, effectivement, les grandes sociétés Adecco, Manpower et Randstad sont tous les trois confirmés. Et alors, on commence à s'interroger très sérieusement sur le fait que ce pourrait être une conséquence, en fait, de la concurrence d'entreprises intérimaires low cost venues des pays de l'Est, qui profiteraient effectivement de la législation européenne. Alors pourquoi? Parce qu'on a.
Tu peux lire la directive Bolkestein.
Entre autres, la directive Bolkestein, mais globalement, c'était la politique européenne de favoriser, de promettre contre l'intégration des pays de l'Est une mobilité des salariés des pays de l'Est. Il y avait un blocage sur certains secteurs en ce qui concernait les marchandises. Par contre, on avait effectivement promis aux pays de l'Est de pouvoir...
Pour les personnes, c'était pas le cas.
Voilà. Pour les personnes, c'était plus facile. Et d'où, d'ailleurs, la directive Vogelstein. Et donc, effectivement... Alors, globalement, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, vous avez une masse de personnes qui sont embauchées. Alors, là, on donne un chiffre, c'est 30% moins cher, en toute légalité. Alors, il faut bien comprendre, 30% moins cher par l'employeur, sachant que les dites personnes seront hébergées sur place, donc et transportées, donc dans quelles conditions, on se le demande. Oui. C'est-à-dire que le coût réel, en fait, pour l'entreprise de l'Est sera quand même bien élevé par rapport au salaire définitif qu'elle versera à ses intérimaires. Et donc là, effectivement, on a une immigration organisée ou une délocalisation de l'intérieur qui... paye une misère les gens une misère par rapport à nos critères, bien sûr, puisqu'il y a un certain avantage, j'imagine, à venir en France, mais enfin, qui paye ces gens largement moins cher que si on embauchait des travailleurs français, en France, et que même que les contrats qui sont prévus, à cet effet, puisqu'il faut comprendre l'hébergement, il faut comprendre un certain nombre de choses.
Et t'es en train de nous dire que les entreprises de certains secteurs ont profité de la directive Bolkestein pour payer des salaires qui sont corrects dans le pays de Pologne ou autre, avec les avantages sociaux, machin, ou Portugal.
Justement, du fait du manque d'avantages sociaux, d'ailleurs.
Du fait de lois sociales beaucoup moins favorables, parce qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale et sociale en Europe.
Mais ça date d'avant la crise. Et en fait, ce qui est possible, c'est que la reprise dont on parle, dans certains cas, se fasse aussi grâce à une main-d'œuvre sous-payée, ce qui est quand même très probable. Et bah, c'est-à-dire que le phénomène s'accentuerait en quelque sorte. En Bretagne, on a vu ça là sur l'histoire d'abattoir, ça serait assez logique. Oui. Mais sur le front de l'emploi, quand l'UNEDIC estime que 2014 sera une très mauvaise année, pour le moment, c'est juste une estimation, elle pourrait ne pas se tromper.
Mais là, le souci, quand même, je donne juste un exemple qui n'est pas spécialement personnel, mais quand on fait refaire des fenêtres avec cas par cas, par exemple, une société quelconque, en fait, hein, et qu'on voit arriver des Portugais qui sont effectivement des ouvriers qualifiés pour monter des fenêtres, ils viennent à 3-4, et les fenêtres sont montées d'une façon impeccable en un minimum de temps, et ils sont payés des misères, ça c'est clair. Et donc c'est vrai que la concurrence pour le coup là, elle est réelle. C'est-à-dire qu'effectivement en France aussi, on peut travailler très bien. Les Français travaillent, les ouvriers français travaillent très bien aussi. Hein. Mais effectivement, ils coûtent beaucoup plus cher. Donc effectivement, la directive Bolkestein permet le fait de payer moins cher des ouvriers qualifiés, hein, quitte à leur donner un logement, etc., etc.
C'est une forme insolubre, de déréglementation du droit du travail.
Et c'est absolument scandaleux.
Sans le dire.
Absolument. C'est une forme de déréglementation du
droit du travail. Quand je parle de droit du travail, je parle par exemple de payer au SMIC, tout simplement.
Absolument.
Mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur les ouvriers, il faut jeter l'opprobre sur les employeurs qui effectivement bénéficient de. Exactement. Enfin,
ouais, surtout quand il s'agit de parce qu'il faut faire une distinction entre des particuliers, donc on voit mal des particuliers faire appel à des intérimaires, mais bien des sociétés. Ou des promoteurs qui font appel effectivement à des ouvriers de l'Est et qui organisent de A à Z, si tu veux, la baisse.
Mais à ton avis, pourquoi les lobbies du monde des affaires et des biens, des services et du BTP ont fait tout au niveau de la Commission européenne pour que la directive Bolkestein existe? C'est bien pour que ça soit un levier de profit.
Absolument.
Je vous propose une petite chanson par là et ensuite on reprend la parole. Merci.
Je fais du gauchisme à la mode, oui, j'ai lu ça dans un journal.
Et oui, c'était Jean-Roger Caussimon, bien sûr, vous vous souvenez, Jean-Roger Caussimon, qui est maintenant décédé, qui était le parolier de Léo Ferré, hein, et qui a donc un certain nombre de chansons qui sont toutes, pour moi, magnifiques, puisque c'est mon chanteur, entre autres. Comme Brassens, c'est comme d'autres, hein, évidemment. Donc, on va reprendre cette émission qui est beaucoup plus sérieuse que ce que je viens de dire à l'instant, et qui, qui parle évidemment du chômage, car nous sommes dans une émission de chômeurs et de précaires, enfin, pas nous spécialement automatiquement aujourd'hui, mais c'est le thème de l'émission, c'est sur le chômage et la précarité. Sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, donc un numéro de téléphone si vous voulez intervenir sur l'antenne, le 01 40 05 06 10. Merci d'intervenir si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Bien, on va reprendre un petit peu cette émission sur donc toujours sur l'emploi, les emplois d'avenir, Christophe, qui sont donc qui ont été une décision donc de Monsieur Hollande pendant avant les élections, hein, c'était une de ses promesses qu'il a apparemment plus ou moins tenue. Alors, qu'en est-il de ces emplois d'avenir ?
Alors, effectivement, c'est un article qui date du 28 octobre par le magazine Challenge, le site web challenge.fr. Emploi d'avenir, premier bilan. Donc là je ne vais pas vous donner un ensemble de chiffres, mais bon, d'après les premières statistiques, en novembre 2012, il y a eu donc les emplois d'avenir qui ont permis une embauche de près de 75 000 jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale, et ayant un fort potentiel de création d'emplois. Donc, quelques chiffres hein, quand même. Hein. Niveau de qualification, 85% des jeunes recrutés n'ont pas le bac, 42% n'ont aucun diplôme. La durée des contrats, plus de la moitié des jeunes recrutés pour 3 ans ou plus. Hein. 12,1% en CDI, c'est peu. Les CDD d'un an représentent le tiers des contrats. La durée moyenne est de 28 mois. Il y a quand même 87% des temps pleins au niveau des embauches. Et on a à peu près 20% des départements, souvent ruraux, qui ont dépassé leur objectif assigné. Et 35% des recrues qui habitent en zone prioritaire, dont 16% en zone urbaine sensible. Donc c'est vraiment ciblé par rapport à ce type de public. Il faut savoir que pour ces jeunes, une dérogation ouvre le dispositif aux diplômés jusqu'à Bac plus 3. Donc ça pose un problème, ça, déontologique. Hein, parce que, bah oui, de quel droit on a le droit...
Il y a aussi des chômeurs de Bac plus 3, hein. C'est pas beaucoup.
Mais de quel droit on a le droit de payer au SMIC sous prétexte qu'on vient d'un quartier sensible et qu'on est diplômé? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Voilà, déjà, donc 88% des gens sont dans le secteur non marchand où la subvention est quand même égale à 75% d'un salaire du SMIC, donc ça a un coût pour l'État. Employeurs et associatives et collectivités territoriales sont bien sûr le plus gros recruteur, 35% chacun, hein, donc c'est vraiment une arme des pouvoirs publics, hein, une arme de lutte contre la précarité et la pauvreté.
Mais c'est aussi ouvert au privé.
C'est aussi ouvert au privé.
Dans le non-marchand,
voilà, donc dans le non marchand, près des deux tiers des recrutements se sont faits dans trois types d'activités. Les services à la personne, où il y a des énormes besoins, hein, l'hôtellerie-restauration, le support aux entreprises. Et il faut savoir que, alors là, on peut s'interroger quand même, il y a 4 employeurs sur 10 qui s'engagent à aider les jeunes à accéder à une qualification dans le secteur non marchand, 1 sur 4 dans le secteur marchand. Donc c'est près de 27 000 jeunes qui avaient un engagement de formation confirmé à la date du 30 septembre. Ces 4 sur 10, c'est trop peu.
Hein, ouais. ça, et 1 sur 4 surtout dans le secteur marchand, quand on voit que l'hôtellerie, restauration et les services à la personne et collectivité, d'accord, l'hôtellerie et restauration, bon, ça représente 18%, mais grosso modo l'idée c'est de faire un emploi subventionné où la personne non qualifiée pourrait apprendre un métier.
Absolument.
Donc, alors ça, donc de la payer au SMIC, mais au SMIC subventionné, donc à hauteur de 33% dans le privé.
Donc, voilà.
Et
donc là, il y a un
sur quatre de formation.
Voilà, exactement. Alors là, c'est là où il y a, en fait, il y a un effet d'aubaine et d'hypocrisie qui est de fait, parce que on nous balance. Moi, je tiens à le rappeler. Depuis que les missions de mode d'emploi existent, on nous sort tous les ans la solution, c'est la formation professionnelle. Et résultat, les mecs qui galèrent le plus, qui ont même pas le bac et tout, il y en a 4 sur 10, c'est même pas la moitié, qui ont droit à une formation qualifiante et diplômante. Oui. Où est la notion d'ascension et de justice sociale dans ces conditions, sachant que la formation apporte une plus-value à l'entreprise, hein, c'est le discours ambiant qu'on nous fait. Oui, mais vous savez, les jeunes qualifiés, ils nous intéressent, etc. Surtout quand ils ont une première expérience. Et voilà la réalité. Bonjour la contradiction, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a des centaines de millions d'euros de crédits qui sont affectés au ministère de l'Emploi et de la Solidarité pour ça. Et voilà quoi. Et ça pose quand même.
En même temps, c'est compliqué de contraindre en quelque sorte une entreprise privée, un employeur globalement, à former.
Absolument. Absolument.
Voilà. Il y a un droit en entreprise qui est quand même de la formation, c'est 0,8% de la masse salariale. Qui est dédié à ça normalement, et donc le CIFLE et tout ça, tous les contrats de formation.
Mais c'est au bout d'un an.
Oui, bien sûr.
Gilles, c'est là où je te fais ma démonstration que le grand discours ambiant de l'établissement idéologique actuel, qui consiste de dire la solution c'est la formation, c'est du pipeau, parce que là on a effectivement des gens qui ont
Non mais attends, de tous les contrats, je crois que c'est un des premiers qui respecte à peu près de tous les contrats aidés, il faut être honnête, qui respecte à peu près ces critères là et en plus qui cible réellement des publics qui effectivement ont un niveau bac ou qui n'ont aucun diplôme. Donc bon, on n'est pas
c'est
d'accord sur tout,
pas,
mais je dirais que jusqu'à maintenant les employés ont servi
c'est une avancée dans le marasme ambiant.
C'est pas mais c'est une avancée peut-être désespérée, on est d'accord. Mais aujourd'hui, je rappelle qu'il y a quand même 900 000 personnes qui sont ni en études, ni, donc jeunes, ni en études, ni en formation, et ni en entreprise.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans la case chômeur, parce qu'ils ne sont même pas en état de chercher du chômage, de chercher de l'emploi. Vous voyez, la puce.
C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs à l'État à donner le RSA aux jeunes aussi.
Aux jeunes, absolument.
Alors, tu vas dire effectivement c'est une avancée, sauf que moi je mettrai un gros bémol, parce que si tu veux, il y a 6500 contrats au 25 octobre.
Oui.
Par dérogation, qui concerne des temps partiels, mi-temps maximum, dans les établissements scolaires réservés à des étudiants boursiers d'un niveau compris entre la deuxième année de licence et la première année de master. ayant vécu dans des zones défavorisées, objectif 18 000 recrutements d'ici à 2015 de profs. Alors moi, ça me révolte pour plusieurs raisons. La première, c'est que un mi-temps, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est comme un pion, il est à mi-temps et ouais. Il fait ses études en plus. Ouais, c'est ça. Si j'ai bien compris.
C'est... D'accord, ok, je veux bien entendre.
Oui, mais ça dépend de l'enseignement, si c'est enseignement primaire ou secondaire.
J'ai pas de précision sur les statistiques.
Parce que si c'est en secondaire, c'est 18 heures par semaine.
C'est vrai qu'on sait pas exactement est-ce qu'ils sont profs ou pas. Là, il a indiqué qu'ils sont profs. On peut devenir professeur. Donc c'est bizarre.
Professeur des écoles ou professeur de matière genre mathématiques?
C'est professeur en général. C'est professeur, il doit être professeur des écoles.
Parce que c'est pas les mêmes horaires.
Oui, tout à fait. Mais dans l'éducation nationale, se sert de ce dispositif.
Ouais.
Voilà, donc c'est dégueulasse par rapport aux gens qu'on...
Réservé à des étudiants boursiers.
Oui, mais c'est d'accord.
En fait, ils pourraient financer leurs
alors,
études
alors,
avec
oui,
ça.
Alors, pour justifier, si tu veux, pour justifier la situation, on fait comme variable le critère social. C'est vous avez des revenus, des ressources qui sont basses, donc on va vous donner un coup de pouce. Sauf que c'est peut-être bien, mais dans ces cas-là, on arrive toujours au même problème. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont diplômés, qualifiés, expérimentés, qui arrivent sur le marché du travail avec un peu d'expérience professionnelle,
ils passent
des
concours de prof. Ils passent ce concours de prof, c'est tout.
Voilà. C'est vrai. Merci Christophe. Alors on va parler juste un petit peu quand même de si tu me permets Ludo, on va parler un tout petit peu quand même, c'est important hein, ce nombre, cette explosion de chômeurs en activité réduite.
Alors, oui, c'est tout à fait important parce que c'est un rapport de l'UNEDIC et donc jusqu'à maintenant donc nous on en était resté à peu près sur les chiffres à 500 000 personnes qui étaient en activité réduite. Alors je crois que c'était 500 000 qui étaient en activité réduite de moins d'un mi-temps, hein, voilà. Donc voilà, moins de 78 heures par mois, je crois. Hein. Donc l'UNEDIC, donc sur quels critères elle le fait, estime elle a révisé donc ce chiffre à la hausse, mais peut-être qu'elle a tout compris. Donc elle estime aujourd'hui que ce chiffre atteint 1,14 million de personnes. Donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc le chiffre aurait doublé depuis donc 1995, qui est à peu près à 500 000. Donc le développement de l'intérim, du temps partiel, effectivement la multiplication des CDD sont les principaux responsables de cette augmentation. Alors le rapport note pudiquement que le monde du travail a évolué ces 30 dernières années, ça on l'avait bien vu. Donc résultat, le nombre de chômeurs indemnisables qui exercent en même temps un petit boulot, donc vous avez entendu, ou une activité réduite a plus que doublé entre 95 et 2012, passant à 1,14 million de 469 000 à 1,14 million. Alors c'est bien ce que je disais, c'est des chômeurs indemnisables qui cumulent une activité. Parce qu'il faut compter aussi des gens qui ne sont pas, qui sont chômeurs, parce qu'ils ne sont pas classés comme chômeurs, pardon, mais qui ont une activité réduite et qui en même temps recomptent du travail. Voilà. Donc, les chômeurs indemnisés n'ayant aucune activité ne sont désormais guère plus nombreux. C'est un chiffre à rappeler, 1,6 million de personnes. Je rappelle que moins d'un chômeur sur deux est indemnisé en France.
Tout à fait.
Et autres données significatives, 40% des demandeurs d'emploi indemnisés travaillaient en 2011. Donc seulement quelques heures. Donc l'activité réduite a progressé indépendamment de la conjoncture, même si la hausse a été plus forte pendant les périodes de crise. Il s'agit vraiment d'un phénomène structurel, soulignant l'UNEDIC. Voilà. Donc pour rappel, le cumul d'une allocation chômage et d'un revenu d'activité est possible pendant 15 mois sous certaines conditions. Alors qui sont ces personnes? Alors auparavant, il s'agissait en 95 donc principalement de salariés ordinaires, d'anciens salariés ordinaires, d'hommes en fait, qui étaient âgés de plus de 50 ans. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, donc quand on parle d'activité réduite, seulement 7% de ces allocataires sont des intermittents du spectacle.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui.
Donc quand on parle de déficit, voilà, du régime, voilà, ça donne une idée de la proportion en fait des personnes que ça représente hein, dans le marché du travail. Et 23% sont des intérimaires. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, donc c'est ce que je disais, en 95, les hommes, c'était surtout les hommes de moins de 50 ans, mais depuis, donc en 2013, il s'agit surtout de seniors et de femmes, donc qui représentent 53% de ces demandeurs d'emploi partiellement actifs. Cette féminisation est liée au développement des métiers d'assistance maternelle, bien sûr, et tout ce qui touche au service à la personne. Autre grand pourvoyeur de ces postes, à peu d'heures, on en parlait tout à l'heure, c'est l'hôtellerie-restauration.
Bien sûr.
Bon, la santé et l'intérim. Donc, voilà, ça c'est toujours dans l'un des comment dire, des métiers qui recrutent avec un fort turnover. Voilà, alors l'UNEDIC a cherché à retracer les parcours de ces personnes. 38% des chômeurs qui étaient en activité réduite en octobre 2010 l'étaient encore un an plus tard. Et 37% n'étaient plus inscrits à Pôle emploi. Donc c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on peut continuer à être en activité réduite et ne plus être inscrit à Pôle emploi et ou ne plus être indemnisé. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas compté comme chômeur, mais on est toujours en activité réduite. Voilà, donc on peut estimer que ces 37%, on peut estimer qu'une partie occupait un travail fixe. Alors, parce que les chômeurs en activité réduite retrouvent plus facilement un contrat long. Voilà. Il peut être long et en activité réduite, mais il est long, au moins, dit-on à l'UNEDIC. Et puis, il y a un autre avantage, c'est de percevoir un revenu plus élevé, entre 1365 et 1560 euros par mois en moyenne, alors que le chômeur indemnisé sans activité est à peu près à 1000 euros en moyenne, hein, 1000,95 €. Voilà, reste une interrogation, comme le souligne l'article. Ce système n'a-t-il pas incité les entreprises à développer encore plus le temps partiel et les contrats courts, sachant que les salariés embauchés pouvaient conserver une indemnisation chômage pendant quelques mois? À cette question centrale, l'UNEDIC ne répond pas, mais préfère souligner que grâce à ce régime, les chômeurs peuvent améliorer leurs revenus.
Oui, Christophe, vas-y.
Ah ouais, là, tu viens de faire la démonstration claire que les chômeurs ne sont pas si feignants que ça, et qu'on a la démonstration d'une création de sous-prolétariat qui sont ce qu'on appelle pudiquement dans la novlangue les travailleurs pauvres.
Oui,
voilà. Voilà, qui a été institutionnalisé. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les employeurs jouent sur ce système aux frais de l'État. Voilà. Et la question qui se pose, c'est dans ces cas-là, que fait l'État puisqu'il veut améliorer la condition de l'emploi?
Eh oui. Merci, les gars. En tout cas, cette émission n'est pas terminée. Hein. Il y a une petite chanson, puis un dernier sujet. Merci beaucoup. Excuse-moi Ludo, on prend la parole, c'est bien Fréquence Papoès 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs à précaire. Et oui, nous sommes toujours là depuis maintenant 18 ans, 18 ans que le chômage perdure, et c'est 18 ans de trop, voilà. Donc, mais nous espérons bien sûr ne plus être là l'année prochaine, malheureusement je ne crois pas à cette prophétie. Vous venez d'écouter bien sûr Bernard Lavillier, un chanteur fantastique, et c'est la chanson les troisième couteau, voilà. Cette émission reprend, on va reprendre avec effectivement la double peine des chômeurs de longue durée. Et c'est Ludo qui s'y colle.
Eh oui, alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a l'habitude dans cette émission d'en parler assez souvent, malheureusement. Donc parce qu'il y a un article de La Croix qui souligne, qui est paru... qui est paru la semaine dernière, je crois, et qui souligne en fait que la notion elle-même de chômeur de longue durée, selon l'UNEDIC, est devenue caduque.
Ah oui, c'est étonnant.
N'est-ce pas? Et pourquoi? Eh bien, parce que la notion donc de chômeur de longue durée, en principe, c'est juste un an de chômage.
Et...
Alors, il faut savoir que, comme ça fait un peu écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, que avant la crise, 40% des chômeurs, enfin des demandeurs d'emploi, donc inscrits effectivement en catégorie A, donc un chômeur total, tout ça, étaient déjà des chômeurs de longue durée. Et qu'aujourd'hui, avec la crise, ce critère n'est plus pertinent, puisqu'aujourd'hui, l'ancienneté moyenne des chômeurs, avec ou sans activité, je précise, à Pôle emploi, a atteint en août un record, donc 504 jours, ça représente 16 mois et des broutilles, c'est-à-dire effectivement un an et demi, un peu moins d'un an et demi, grosso modo. Voilà. Ceux sortis des listes, ils sont en moyenne restés 287 jours contre 225 il y a 5 ans. Voilà, donc c'est la durée, quand on parle de durée moyenne de gens qui sont encore inscrits. Hein, voilà. Et ceux qui sont sortis des listes, en fait, on s'aperçoit que ils sont restés la moitié moins des jours. Et donc, une statistique en fait s'impose naturellement, c'est que le moins vous restez de temps à Pôle emploi, le plus vite, c'est une tautologie, le plus vite vous allez retrouver un emploi.
Oui.
Mais grosso modo, ça veut dire que plus votre chômage s'éternise, et moins vous avez de chance de retrouver un emploi.
Oui.
Pour des tas de raisons. Et donc ça prend quand même une tournure assez dramatique en ce moment, puisque les chiffres des chômeurs de longue durée Ces derniers chiffres sont absolument alarmants. Pour vous donner une idée, je crois qu'aujourd'hui, à peu près 40%, ou près de la moitié des chômeurs de longue durée, aujourd'hui, ont atteint le stade de 2 ans de chômage.
Oui, absolument.
Donc, absolument.
Voilà. Donc là aussi, on a le chômage de longue durée donc a doublé en période de crise. Et donc l'article, pourquoi il parlait de ça, c'est que il se passe que ce qu'on a toujours su, c'est que plus vous restez au chômage et moins vous avez de chances de retrouver un travail. Et cette tendance s'accentue avec la crise, d'où cet effet de double peine du chômeur de longue durée, pour des raisons qui sont effectivement très très différentes, mais qui peuvent aller de l'âge de la personne, du fait qu'elle ait été dans des métiers entre guillemets en régression, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas retrouver un emploi dans son domaine, et qu'effectivement elle soit obligée de changer de domaine et sans qualification a priori pour, ce qui implique nécessairement un déclassement, ce qui se traduit concrètement par une baisse de salaire immédiate sur le poste que vous allez retrouver. Oui. Et d'où l'hésitation naturelle de la personne à reprendre un poste tant qu'elle est indemnisée. Parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'elle sera... Parce qu'elle n'est pas certaine de pouvoir le garder longtemps, ce poste. Donc la prochaine fois qu'elle retombera au chômage, son indemnisation sera moindre. Et à supposer d'ailleurs que son nouveau salaire lui permette de vivre et de faire vivre sa famille. Oui,
c'est pire que ça. C'est-à-dire que moi, je rappelle une chose, c'est que non seulement il y a cet effet de plus vous êtes longtemps au chômage, plus vous êtes considéré comme inemployable, mais il y a un autre élément, c'est-à-dire que même un autre élément qui est extrêmement gênant, c'est-à-dire que lorsque vous essayez de vous remettre sur un tremplin par l'intermédiaire d'une formation diplômante et qualifiante, il faut savoir que les lois en France, ne sont pas appliqués pour les personnes qui sont les plus préjudicées vis-à-vis de l'emploi. Par exemple, quand vous voulez faire une formation qui va vous permettre effectivement d'avoir plus tard un emploi parce qu'elle est hautement qualifiante. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas respecté parce qu'on estime, après X années, que vous êtes plus employable. Donc, même si on investit pour vous 30 000 euros sur tel diplôme d'État ou telle formation d'ingénieur, même si vous avez eu les critères requis pour le faire, eh ben c'est niette.
Merci Christophe. Donc cette émission se termine pour la rediffusion. On reprendra la parole par la suite parce qu'apparemment l'émission qui nous suit ne sera pas là. Tu pourras remettre la chanson en entier, Claude. Il n'y a pas de souci. Tu me parlais dans le casque. Voilà. Donc merci en tout cas à tous ceux des auditeurs et auditrices qui nous ont entendus écouter. Merci à tous les deux d'avoir fait cette émission. Vous êtes des journalistes performants. Il n'y a pas de souci. Donc on reprendra la parole par la suite puisque c'est l'émission qui nous suit n'est pas là. Merci à tous. Bisous aux filles et poignées de main aux garçons.
Au revoir.
Au revoir. Il ne faut rien.